Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
On retrouve Émilie Julia.
Chers amis, bonjour. Nous parlons aujourd'hui du mouvement écolo et nous revenons sur son histoire en France. Les Français fervents compatriotes de la cause environnementale, nous avons été plutôt longs à prendre conscience des enjeux. Comment ce mouvement a-t-il démarré? Quels sont les hommes et les idées qui ont fait avancer l'écologie? Nous en discutons aujourd'hui avec Roger Kanz, qui est journaliste et naturaliste. Il a écrit un livre qui s'intitule « Petite histoire du mouvement écolo en France », un livre publié aux éditions de Lachaud et Niestlé. Alors Roger Kanz, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous évoquez dans votre livre la lenteur française dans la prise de conscience de la protection de l'environnement et à juste titre, vous nous expliquez que la préoccupation environnementale a d'abord été le fait des intellectuels et des hauts fonctionnaires avant de toucher le corps social, alors que ça a été plutôt l'inverse chez nos voisins anglo-saxons ou germano-scandinaves. Alors j'ai envie de vous poser une première question. Pourquoi a-t-on fait à l'envers selon vous ?
Eh bien, le monde germanique et scandinave, ils sont des amateurs de nature sauvage. Ils sont amateurs de soleil, de naturisme. Ils se roulent dans la neige après le sauna. Vous voyez, c'est la nature sauvage qui les enchante. Les anglo-saxons, ils aiment beaucoup la nature aussi. Donc, le jardin anglais, vous voyez, proche de la nature sauvage, mais déjà un petit peu arrangé. Tandis que les Français, c'est-à-dire les Latins, c'est pareil chez les Espagnols, les Italiens, nous, on n'aime que pas la nature proche de la vie sauvage, la nature complètement arrangée. On aime que, surtout en France, le cartésianisme, on aime que les prairies soient taillées, les haies bien bordées, les limites. On n'aime pas la nature sauvage, la forêt, ça n'intéresse pas. Alors, on est un peuple de paysans qui aiment bien la terre bien délimitée. Là, ça, c'est à moi, là, c'est plus à toi. Et on a une espèce d'amour de la nature, de la campagne, du monde rural, bien peigné, bien soigné, bien cultivé. Et tout espace sauvage, c'est un espace qu'on a négligé de cultiver et donc qui n'est pas intéressant. Ce qui fait que en France, on n'aimait ni la montagne, ni la mer, ni la forêt. La forêt était le repère des brigands. La mer était un endroit où on n'envoyait que les bagnards, les galères et on se noyait. Et la montagne était un obstacle au passage. C'était les glaces, la neige, les rocs arides. Donc tout ce qui était naturel et sauvage était vraiment quelque chose que les Français avaient en horreur jusqu'au XVIIe siècle. Bon, et c'est, il a fallu Rousseau pour que, donc un Suisse de Genève, pour que lui disent « mais la montagne, c'est magnifique, je l'ai traversée, je suis allé à Turin à pied, j'ai entendu les torrents, tout ça, c'était magnifique. » Et puis, la forêt, Chateaubriand est revenu d'Amérique en disant « mais la forêt américaine, mais c'est des cathédrales, c'est magnifique. Bon. » Et puis la mer, Bernardin de Saint-Pierre, les îles exotiques, la navigation, on va dans les îles, les cocotiers. Réhabilitation de la mer. Ça s'est fait à la fin du XVIIIe siècle. Et puis après, mais ça c'était donc des écrivains, des gens qui réfléchissaient. Mais le commun des mortels, les Français, la forêt ne les intéressait toujours pas, y compris au XIXe siècle. Il a fallu que ça... Enfin, le milieu du 19e pour que la forêt de Fontainebleau, c'est pas mal, les peintres là, et tout le monde tout d'un coup s'y intéressait. Et les choses sont venues très lentement. La montagne, c'est venu encore après, la mer, voilà. Maintenant, tout le monde, les Français, aiment la mer, mais c'est pour faire du bateau. C'est pas la mer sauvage comme aiment les Greenpeace. Ils veulent qu'on sauve les baleines, alors que les Français aiment naviguer. Ils aiment la montagne pour y marcher et l'exploiter. Mais la protéger, ça, c'est venu très, très récemment.
Alors, quels sont les pionniers du mouvement écolo, Roger Kanz?
Alors les pionniers de notre siècle, il y a eu un philosophe, intellectuels, c'était Bernard Charbonneau et Jacques Ellul. Hein, c'était dans les années 30. Ça, c'est en France les premiers auteurs qui ont réfléchi à la nature et à l'écologie. Et Et donc, Bernard Charbonneau était un apôtre du retour à la nature, mais une nature même rurale, enfin la campagne, il aimait bien, c'était pas seulement la nature sauvage, mais ils avaient le sentiment qu'il y avait deux menaces qui étaient le collectivisme, qu'il soit fasciste, nazi ou communiste, et le progrès technique qui allait nous bouffer. Or, que ce soit le nazisme, enfin le totalitarisme, ou même la démocratie, puisque les démocrates se faisaient quand même la guerre, l'Allemagne, la France, bon. Et ils se sont dit, mais où est-ce qu'on va là? On est en train de perdre la boule. Et Jacques Ellul, lui, qui était... Charbonneau était professeur d'histoire et géographie, Jacques Ellul était professeur de droit, mais ils étaient tous les deux à Bordeaux. Et donc, ils se sont rencontrés et alors ils se sont retrouvés finalement à penser un peu la même chose en essayant de réhabiliter le personnalisme, c'est-à-dire l'individu. Essayer de sauver la personne qui était broyée à la fois par le totalitarisme politique des années 30, parce que le fascisme, ce n'était pas seulement non plus en Allemagne et en Italie, c'était aussi en Argentine, en Roumanie, enfin c'était une période, et puis le stalinisme. Et donc, ils ont voulu réhabiliter la personne et en même temps lutter contre l'engouement pour la technique qui était la générale, que ce soit dans les démocraties ou dans les pays totalitaires. On avait le goût de l'industrie, de l'aviation, l'automobile, enfin c'était les années 30, c'était la percée de l'avion, de l'automobile et de tout ce qui était le train. Bon. Et donc, on sentait que ça allait nous broyer parce que l'homme est devenu maître de la nature, mais il ne sera pas maître de la technique qu'il invente. Ça, c'est Jacques Ellul qui a mis ça. Donc, il a mis en garde. Et donc, c'était des penseurs qui n'étaient pas écolos, puisque l'écologie n'existait pas. Mais l'un était pour une révolution naturiste, ce qu'il appelait une révolution naturiste, et l'autre disait, attention, technique dangereux, il faut que, pour rester maître de notre technique et du progrès technique, il faut une conscience et une morale personnelle très haute. Hein, et donc, seule la morale personnelle peut nous empêcher d'aller au désastre et à la guerre, etc. Et effectivement, il y a eu la guerre de 40. Alors là, après la guerre de 40, nos deux philosophes là, ont disparu parce que le marxisme est devenu la pensée unique de l'après-guerre. Et donc, à l'université, il n'était pas question de parler de protection de la nature, de choses comme ça qui paraissaient complètement réactionnaires. Et alors, c'est revenu par plus tard. Donc, il y a eu des petits signes comme ça, le film de Cousteau qui est primé à Cannes, le livre de Romain Gary, Les Racines du Ciel, qui reçoit le prix Goncourt et qui est un livre totalement écolo. C'est vraiment la première fois que même le mot écologie a toutes les pages. Alors, il y a eu un petit sursaut là dans les années 50, mais c'était quand même les 30 Glorieuses et il n'y avait pas de... Le film est resté sans lendemain, le livre aussi. Et il a fallu attendre, en fait, les années 60 pour que on passe aux hauts commis de l'État, aux hauts fonctionnaires qui se disent « Ah mais oui, mais nos voisins sont en train de faire des parcs, nos voisins sont en train de faire ceci, cela. On devrait aussi prendre des mesures pour préserver des espaces en France, donc les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux, et puis la loi sur la dépollution des fleuves. Enfin, on a pris des mesures, mais prises d'en haut, comme ça, à la française, c'est-à-dire comme Colbert ou Napoléon, on décrète qu'on va faire ci, on va faire ça. La population française était totalement étrangère à ces décisions. Et il a fallu attendre 68 pour que les gens prennent la parole. Et alors, là, tout a changé.
Donc là, le souci de la protection de l'environnement sort du ghetto des spécialistes.
Oui, parce que à part quelques intellectuels qui réfléchissaient à l'avenir, hein, comme le Club de Rome, ce genre de jeux, il y avait des économistes, il y avait des... Et puis les naturalistes, les scientifiques, c'est-à-dire tous les universitaires qui sont spécialisés dans les oiseaux, la chimie, l'agriculture, qui avaient un souci de l'écologie et de la sauvegarde de la planète, le 68 a fait parler les gens. Tout le monde est descendu dans la rue, a discuté, etc. Et voilà, sous les pavés, la plage, il y a eu un mouvement de retour à la nature, il y a eu des éleveurs de chèvres, etc. Et alors, voilà, puis sont apparues les premières revues comme La Gueule Ouverte. Donc, des années 70 ont vu l'écologie devenir un mouvement politique, rebelle, alternatif, et s'est focalisé un peu sur le nucléaire, hein, parce que c'était le moment où le plan français de centrale nucléaire en 1974 a été lancé en grande puissance. Jusque-là, il y avait eu que c'était plutôt expérimental et en petite dimension. Mais, et alors du coup, les gens qui se préoccupaient de la survie de la planète se sont dit, mais le nucléaire, c'est ce qui va nous tuer. Hein, pensez à Hiroshima, etc. Donc, nucléaire voulait dire bombe, voulait dire militaire, voulait dire centralisation. Et il y avait tout ce mouvement qui était... et qui s'est focalisé donc dans la lutte contre les centrales nucléaires. Ça a commencé à Fessenheim, donc en Alsace, parce que les Alsaciens, étant très proches de l'Allemagne et de la Suisse, qui sont très écolos depuis longtemps, ont été les pionniers, hein, en Alsace, Solange Fernex, Antoine Wächter et d'autres. Et donc, les premiers mouvements vraiment d'écologie militante et active, de terrain, ça a été en Alsace. Et puis après, il y a eu des mouvements internationaux comme les Amis de la Terre ou Greenpeace qui ont fini par se créer aussi. Mais enfin, c'était des branches françaises qui étaient des nains à côté des branches anglaises ou américaines ou allemandes. Et parce que même après 68, la population française dans son ensemble n'était pas du tout sensible aux arguments des écologistes. Ils étaient toujours préoccupés par la qualité de la vie, la bonne bouffe, les campagnes belles, mais aucun problème si on utilise des pesticides et une cheminée qui fume, c'est la soupe qui fume à la maison. Donc tout allait bien pour la population française, malgré la vague contestataire. Et en plus, en 1981, quand la gauche est arrivée au pouvoir, elle a mis un terme aux deux combats, aux deux conflits qui enflammaient tous les écolos, c'est-à-dire le Larzac et le camp militaire du Larzac et la centrale nucléaire de Plogoff en projet. Et la gauche a dit « on arrête ça ». Et du coup, ben, les militants écolos se sont dit ben, « ça y est, on a gagné, nos amis sont au pouvoir ». Et puis après, ils se sont aperçus que ce n'était pas forcément des écolos qui étaient au pouvoir, puisqu'il y a eu l'affaire Greenpeace en 85 et puis toutes sortes de choses qui se sont produites après. Et donc la gauche a repris le flambeau nucléaire comme les autres. Et donc le combat des écolos, c'est focalisé sur le nucléaire, sur après contre la chimie, la pollution de l'air, la pollution des sols, et puis la chimie en agriculture. Et il a fallu que Brice Lalonde, ministre de l'Environnement, déclare, lui, membre du gouvernement, déclare que les agriculteurs sont aussi des pollueurs. Ça a été une secousse terrible parce que, justement, la France et son agriculture, c'est vraiment son sang, sa chair. Et dire que l'activité noble de la France est une activité polluante, c'était pousser loin le bouchon. Et il fallait que ce soit un électron libre qui le dise. Brice Lalonde, n'ayant pas de parti derrière lui, n'étant qu'un militant des Amis de la Terre converti à la politique. Alors à ce moment-là, ça a pris de l'ampleur. Comme il y avait le sommet de Rio de 92, tous les gouvernements devaient remettre leur copie écologique pour montrer qu'ils faisaient bien les choses. Et alors là, ça a été une petite révolution puisque... Maintenant, le monde agricole est très conscient qu'il a des responsabilités dans la pollution de l'eau, dans la pollution des sols, que évidemment il est en même temps le gardien du territoire et que les gens vivent en ville mais envoient leur saleté, hein, toutes les boues d'épuration dans leurs champs. Alors ils disent oui, mais on pollue peut-être, mais c'est à cause de vous, d'abord pour vous nourrir, ensuite pour récupérer vos déchets. Et alors maintenant, bon, une fois que le milieu agricole est touché, Ça veut dire que tout le monde l'est en France, puisque c'était D'accord. le milieu le plus résistant. Alors, après les intellectuels et les hauts fonctionnaires, si on touche les paysans, ça veut dire que ça y est, c'est devenu une prise de conscience générale. Toute la société française est consciente qu'il y a quelque chose là.
D'accord. Je vous propose de faire une petite pause de 5 minutes.
Parce qu'ils ont façonné l'histoire de nos civilisations, ils furent acteurs ou témoins de cette histoire. Leurs travaux et ouvrages nous font traverser les siècles. Historiens, philosophes, économistes, juristes et sociologues s'expriment sur Canal Académie. Les membres de l'Académie des sciences morales et politiques racontent. Retrouvez-les dans Un jour dans l'histoire, une émission de la rédaction de Canal Académie.
Monsieur Kans, on peut dire que Brice Lalonde donc, est le premier écologiste qui est arrivé au gouvernement. Vous pourriez nous parler de ce premier accès au gouvernement d'un écologiste. Qu'est-ce que ça a changé?
Oui, alors c'est typique de l'écologie en France, ça vient par les marges, hein, de même que les Alsaciens se sont mobilisés les premiers. Brice Lalonde, lui, c'est un franco-britannique, sa mère est écossaise, donc il est très mixte dans sa culture, et ce qui le rend plus sensible, évidemment, aux arguments écologiques que le français de base. Et il se trouve qu'il a adhéré aux Amis de la Terre, et il est devenu un militant, et 68 lui a permis de découvrir l'action politique. Et alors là, il s'est, évidemment, les Amis de la Terre refusant de faire de la politique, il a été donc pris ses distances, un peu comme Ségolène Royal avec le Parti Socialiste. Ces gens qui veulent faire un truc, ils ont beau avoir des amis, et bien ils leur disent « moi je vais tout seul ». Et donc Brice Lalonde a tout seul voulu entrer en politique. Bon, il y avait eu René Dumont qui avait été sollicité, mais lui ne voulait pas, c'est pas lui, on était venu le chercher. Tandis que là, Brice Lalonde, il était candidat, il était présent. Et puis finalement, dans le gouvernement Rocard, on lui a donné le portefeuille de l'environnement. Et c'était la première fois qu'un écolo vraiment militant devenait ministre. Et donc membre d'un gouvernement français. Alors, ce n'est pas lui qui a créé le ministère de l'Environnement, ça c'était le travail des hauts fonctionnaires d'avant, hein, notamment Serge Antoine et d'un certain nombre de fonctionnaires conscients, mais lui, c'était militant. Et il a été, il a passé 4 ans au ministère et il a vraiment engagé beaucoup de choses, il était très actif. Et ça, depuis maintenant, on ne met plus, ça dépend des gouvernements. Mais enfin, en général, jusque-là, jusqu'à Lalonde, Mitterrand avait mis ses anciens concurrents. Donc, Michel Crépeau, qui s'était présenté contre lui, Huguette Bouchardeau, qui s'était présenté contre lui. Brice Lalonde s'était présenté contre lui, mais Brice Lalonde, ça ne comptait pas aux yeux de Mitterrand. Tandis que là, Rocard a considéré que l'environnement était quelque chose qui méritait qu'on s'y intéresse. Et donc, on a pris fait et cause pour l'Antarctique, on a pris... Enfin, la France est devenue, sur la scène internationale, a commencé à faire parler d'elle. Et après, évidemment, à Rio, elle a essayé de continuer, mais c'était surtout Cousteau qui était présent à Rio, puisque Lalonde n'était plus ministre à ce moment-là. Et puis, depuis, il y a toujours un ministre de l'Environnement. Alors, l'appellation change, mais on considère que ça fait partie, c'est pas le ministère des PTT ou des anciens combattants. C'est un ministère qui doit creuser son sillon et qui doit dire le droit lorsque un problème d'environnement se pose. Et des problèmes d'environnement, il y en a partout, que ce soit l'énergie, la pollution de l'eau, de l'air, la santé, toutes sortes de domaines où les Français se rendent compte qu'il y a des choses à faire et à ne pas faire.
Donc les années 80, effectivement, donc toutes ces avancées, c'est la décennie des grands dossiers. Alors, le Larzac de José Bové, comme vous disiez, Tchernobyl, l'affaire du Rainbow Warrior. Qu'est-ce que toutes ces affaires vont finalement changer, vont apporter? Alors, j'allais dire dans le mauvais sens, mais vont changer dans le sens concret du terme au sujet de l'environnement.
Tchernobyl va avoir une très grosse importance, en ce sens qu'on savait déjà que, par exemple, les déchets étaient baladeurs, qu'il y avait un trafic international du déchet. On savait que la pollution se promenait, la pollution de l'air, puisque ça passe les frontières. Mais c'est Tchernobyl qui a été le facteur déterminant du fait qu'un épisode quelconque qui se produit à la surface de la planète peut avoir un effet sur à l'autre bout. Alors bien sûr, il y avait eu les essais nucléaires dans l'atmosphère, etc. Mais bon, on pensait qu'on les faisait très très loin des habitations. Tandis que là, l'explosion a eu lieu quand même très près d'une grande ville qui était Kiev. Et en plus, le nuage s'est baladé sur toute l'Europe. Et alors à ce moment-là, il y a eu quand même une prise de conscience que la politique écologique ne peut plus être seulement nationale. On faisait des parcs nationaux, on faisait des plans pour la dépollution des fleuves, ceci, cela, mais on s'aperçoit que tout d'un coup, la planète est une et que l'écosystème ne peut pas se préserver à un endroit s'il n'est pas préservé à l'autre. Et alors là, c'est la planétarisation de l'écologie, parce que pendant toutes les années 60, les scientifiques protégeaient des associations régionales, locales. Hein, ben, la SEPNB pour la Bretagne, chaque association, ses pinceaux pour le Sud-Ouest, etc. On défendait son petit lopin de terre. Et c'est justement avec des gens comme les Amis de la Terre et Greenpeace qu'ils se sont dit non, il faut agir localement, mais il faut penser globalement. Act local, think global. Et ça, c'était le mot d'ordre du sommet de 72 de Stockholm. Et c'était un mot d'ordre international inventé par les anglo-saxons. Et ça n'a commencé à devenir sensible que justement après Tchernobyl. Et toute l'affaire des pluies acides, de la pollution atmosphérique à longue distance, les CFC, la couche d'ozone, etc. Et alors maintenant, même le mot planète, dès que vous parlez de la planète, on dit vous êtes écolo. Alors qu'avant, les gens ne parlaient que de la France, la nation, etc. Et il y a maintenant une conscience planétaire, y compris chez les Français qui sont très chauvins, très hexagonaux, hein, qui sont beaucoup moins internationalistes que d'autres. Que les anglo-saxons notamment.
Donc les années 90, bon, la révélation, les concepts à la mode, se déclarer soucieux de l'environnement est chic. En même temps, les désastres écologiques, bon, alors on avance ou on recule ?
Ben, disons que la démographie continue à peupler la planète, donc quand on est 6 milliards, ça n'a pas le même impact que quand on est 2. Et quand on sera 9, il y aura... Bon, mais maintenant... on semble s'acheminer vers une prise de conscience qui fait que, si ça se trouve, quand on sera 9 milliards dans 30 ans, on polluera peut-être moins que les 6 milliards aujourd'hui. Parce qu'à partir du moment où on prend conscience d'un certain nombre de choses, lorsqu'on produit propre, lorsqu'une voiture ne consomme plus 15 litres au 100, mais 3, et que c'est des litres d'un liquide qui ne pollue plus, enfin des choses comme ça, si on arrive à ça, on peut même être 10 ou 12 milliards. Je veux dire, la planète n'est trop petite que si, pour des gens qui gaspillent. Là, c'est la société du gaspillage, la société de consommation. Alors là, maintenant... on est toujours dans la société de consommation. Les gouvernements encouragent toujours la consommation et la croissance. Mais on se rend compte que cette croissance et cette consommation, si elle n'est pas judicieuse, ça peut avoir des conséquences dramatiques.
En 1995, Jacques Chirac reprend les essais nucléaires. Comment ceci est accueilli ?
Ben, c'était aussi mal accueilli que les essais nucléaires de 1972 qui avait eu lieu pendant le sommet de Stockholm. Et là, à l'époque déjà, les Néo-Zélandais, les Australiens avaient coupé le contact avec la France. Le courrier postal était supprimé et on s'acheminait vers la même chose en 1995. Donc c'était un revenez-y. Et il y a eu une très grande campagne contre la France en Nouvelle-Zélande, en Australie et au Japon. Et même au Chili, au Pérou, enfin dans tout le Pacifique. Mais à ce moment-là, le mouvement écolo considérait que, de toute façon, on savait que les essais nucléaires allaient s'achever. Donc, ce n'était pas là le combat. Ils préféraient se battre encore contre le nucléaire civil, contre la politique d'énergie nucléaire, et constatant qu'on n'était toujours pas partant pour les énergies renouvelables, hein, puisque à part les barrages hydrauliques, on ne fait ni solaire, ni éolien, ni... La France est vraiment ne fait que démarrer maintenant, alors que des pays sont déjà sur ces énergies renouvelables depuis une vingtaine d'années.
Alors, la dernière question que je voulais vous poser, Monsieur Kanz, c'est quel espoir peut-on garder aujourd'hui ? C'est-à-dire, on a vu beaucoup de choses avancer ces dernières années. Est-ce que on a finalement beaucoup d'espoir ? Est-ce que beaucoup de choses ont été faites ? Ou est-ce qu'au contraire, finalement, tout reste à être fait ?
Non, il y a des choses qui ont été faites. Il y a la loi sur la protection de la nature de 1976 était une étape très importante qui fait que la nature sauvage n'est plus considérée comme res nullius, n'appartenant à personne. Maintenant, tout le monde, la loi le dit, mais tout le monde l'admet, que un merle, un hérisson, n'importe quel animal qui se promène dans la nature n'est pas res nullius, n'est pas quelque chose qui n'appartient à personne et qu'on a le droit de prendre, de s'accaparer. Ce qui est à la nature sauvage est du patrimoine commun, collectif. Ça appartient à la collectivité. Et donc, il y a ce côté, la nature sauvage ne m'appartient pas, elle appartient à tout le monde. Et donc, si c'est un patrimoine collectif, je n'ai pas le droit d'y puiser à ma guise. Il y a des règles à respecter. Et puis, les voisins aussi, ils ont droit à avoir accès à certaines sources naturelles. Et donc, ça, maintenant, depuis en France, la loi de 76, cette réhabilitation de la nature sauvage comme richesse nationale, maintenant fait son chemin et tout le monde en est conscient qu'une plage préservée, une montagne épargnée qui n'a pas de, il n'est pas hérissée de pylônes est quand même un patrimoine à conserver si on peut. Et donc ça, c'est quelque chose qui est entré dans les têtes. Et puis maintenant, on voit que bon, ben, même à Paris, quand les écolos disent on va favoriser le vélo, les transports en commun, etc., aux dépens de la voiture, ah ben ça râle un peu, mais bon, ben, le tram se fait. On s'aperçoit qu'effectivement, quand il y a des couloirs d'autobus réservés aux véhicules prioritaires, les ambulances, les pompiers, la police et les vélos, ben, comme ça, il y a un partage de la chaussée, que la vie en ville est plus vive. Donc, je pense que quand on voit les progrès de la pollution des grands fleuves qui étaient vraiment des égouts jusque dans les années 70, maintenant, on voit qu'ils sont plus propres. Donc, on peut, la forêt qui disparaît dans certains pays chez nous, en Europe, elle reprend du terrain, elle regagne énormément de terrain. Et donc, la nature sauvage reprend ses droits lorsque l'homme... On voit que les choses sont réversibles. Alors, les choses qui sont irréversibles, oui, alors ça, c'est bon, si la forêt tropicale disparaît, effectivement, les sols s'en vont, ça devient de la latérite. Les déchets nucléaires, c'est aussi un peu irréversible dans la mesure, une fois qu'ils sont là, on ne peut pas les s'en défaire. Il faut qu'on vive avec. Il y a un certain nombre de choses, mais enfin, bon, on le fait. Alors, à partir du moment où les Français, comme les Américains, ou comme les Allemands, ou les Japonais, ou les Chinois, parce que maintenant les Chinois commencent à se rendre compte que leur développement accéléré a un impact direct sur leur propre pays et menace certaines... ils ont des problèmes d'eau, de pollution, de ressources naturelles. Et quand tout le monde en aura pris conscience, avec une espèce de niveau de développement qui commence à se rapprocher, à ce moment-là, on peut prendre, on l'a déjà fait pour les CFC, la couche d'ozone, une communauté internationale qui décide de supprimer un produit polluant. Il y a Kyoto pour le réchauffement climatique, mais on peut imaginer que pour chaque grand problème, des pays se mettent d'accord sur une politique internationale de préservation des ressources naturelles, de non-gaspillage, de consommation sobre et frugale, et qui permettra maintenant, vous voyez, pour l'alimentation, tout le monde dit qu'on mange trop, et il n'y a pas que Souchon qui le chantait, il y a une prise de conscience maintenant que effectivement, manger trop n'est pas bon pour la société de consommation. On peut acheter tout ce qu'on veut, remplir sa maison de tous les appareils qu'on voudra, c'est pas ça qui vous permet de vivre spécialement bien. On vit quelquefois beaucoup mieux avec beaucoup moins d'encombrement, surtout qu'à chaque fois qu'on achète des appareils nouveaux, il y a des pannes, on n'a pas la garantie, etc. Enfin, les gens se rendent compte que là, quand on pousse à la consommation, on se fait avoir et on n'a pas une vie meilleure. La qualité de vie, c'est pas forcément plus. Ça peut pas forcément être moins, mais ça peut être mieux. Et c'est en fait ça, maintenant on pense à non plus l'aménagement du territoire, mais le ménagement du territoire. Le ménage, on fait le ménage, c'est-à-dire qu'avant les gens faisaient le ménage chez eux, entre quatre murs, mais maintenant on doit faire le ménage partout, y compris dans les espaces vierges et sauvages. Il faut qu'on ménage la planète, c'est-à-dire qu'on l'aménage et qu'on la soigne.
Donc nous gardons un bon espoir, l'État a beaucoup agi, le citoyen a beaucoup agi, la conscience écologique commence vraiment à se former autour de nous. Alors nous allons finir sur une phrase de votre livre qui dit qu'au pays du coq gaulois prompt au cocorico, la démarche écologique est un rude apprentissage. Alors gageons que l'apprentissage se fera le plus vite possible et que nous arriverons à vivre dans un monde propre et écologique. Monsieur Kanz, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Si vous désirez en savoir plus, je vous conseille donc La petite histoire du mouvement écolo en France, livre publié aux éditions de La Chaux et Niestlé, et de vous rendre également sur nos ondes, sur canalacademy.com, où vous pouvez télécharger gratuitement nos émissions. À très bientôt.